L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Depuis quelque temps, les publications qui s'inquiètent du pouvoir grandissant des géants du web se multiplient. Celles et ceux qui naguère louaient les vertus libératrices de l'Internet s'alarment désormais, redoutant le caractère liberticide de Google, Facebook, Amazon, Apple ou Microsoft. Le réseau des réseaux a prospéré grâce à des protocoles ouverts, libres, transparents, partagés par leurs conceptrices, leurs concepteurs, avec le plus grand nombre. Ferme aujourd'hui sous les coups de systèmes fermés et opaques, d'algorithmes aux recettes inconnues qui, tour à tour, nous servent et nous surveillent. Malgré tout cela, des projets continuent de naître partout dans le monde qui tentent de réinjecter de l'espoir, de la démocratie, de la transparence via et dans l'univers numérique. Nous vous en présentons trois aujourd'hui. Ils sont francophones et ont été distingués la semaine dernière à Paris.
Le Prisimètre permet aujourd'hui d'assurer un contrôle citoyen des politiques publiques.
C'est plutôt participatif, c'est pas juste le ministre décide de faire cette route-là et pas une autre, de créer une école dans un lieu et pas dans un autre.
Ce sont des pots de vin, des bacs chiches donnés aux policiers de la rue, donnés aux administrations, quand on demande un certificat de résidence par exemple. Donc du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas travailler sur la lutte anticorruption.
Le 8 décembre dernier s'est tenue la remise du prix numérique et transparence organisé par le ministère des Affaires étrangères français, l'ONG Transparency International et CFI Média. La cérémonie a eu lieu au Liberté Living Lab, un espace dédié à l'innovation en faveur du bien commun dans le 2e arrondissement de notre capitale. Il y avait trois catégories pour le prix. Première catégorie, ouverture des données pour la transparence et l'action publique. Deuxième catégorie, outils de prévention et de lutte contre la corruption. Enfin, contrôle citoyen pour la bonne gouvernance. Le concours était ouvert à des projets francophones mais non français. Rencontre avec les lauréats dans cette émission, signée Mélissa Barra.
RFI.
Avant de retrouver Mélissa, permettez-moi de faire une courte déclaration d'intérêt, c'est-à-dire de partager avec vous une information qu'on pourrait me reprocher de taire. J'ai fait partie du jury du prix numérique et transparence, j'en étais même le président, une fonction et une participation à titre bénévole et gratuit. C'est en toute liberté et uniquement par souci d'information que nous avons choisi de vous faire découvrir aujourd'hui les projets distingués. Fin de la parenthèse, début de notre émission.
Dans la catégorie « Ouverture des données pour la transparence et l'action publique », c'est le site tunisien Kabran qui a remporté le premier prix.
Kabran, en dialecte tunisien, c'est le chef de projet, celui qui mène le projet.
Le contremaître, quoi.
Le contremaître, oui.
Lui, c'est Sharfedin Yacoubi. Il est fondateur de l'Association tunisienne des contrôleurs publics. Né de la société civile après le départ du président Ben Ali, l'ATCP, comme on l'appelle plus couramment, cherche à réformer l'administration publique pour assurer aux citoyens une plus grande redevabilité des institutions. En mai 2017, elle a lancé la plateforme en ligne Kabran.
Kabran est une plateforme tout d'abord qui permet aux citoyens de répondre à trois questions. La première question, c'est relative à la transparence des informations relatives aux projets publics. La transparence, c'est-à-dire combien a coûté une route, combien a coûté une école, un hôpital, quand est-ce que le projet va commencer, quand est-ce qu'il va finir. La deuxième question est relative à la participation des Tunisiens dans le choix des projets. Kabran est un outil qui permet aux Tunisiens, à travers une carte, de placer un projet dans un lieu bien déterminé, de choisir, par exemple, s'ils veulent une école, une route dans une région de la Tunisie, ils placent sur cette carte-là et nous sommes informés de ce projet-là et on essaie d'informer le ministère de l'équipement surtout pour programmer ce projet-là.
Concrètement, il suggère le besoin d'une école, d'une route, d'un hôpital dans un lieu.
C'est plutôt participatif, c'est pas juste le ministre décide de faire cette route-là et pas une autre, de créer une école dans un lieu et pas dans un autre. C'est le citoyen lui-même qui suggère ce type. C'est les projets qui sont proches de lui. La troisième question à travers laquelle Kabran veut répondre, c'est la question de redevabilité. On a beaucoup de projets, surtout après la révolution en Tunisie, beaucoup de ponts, beaucoup de routes, beaucoup de projets. Et nous avons vu que le contrôle public, c'est-à-dire le contrôle des pouvoirs publics, n'est pas suffisant. On a besoin d'un contrôle continu, un contrôle citoyen Et c'est à travers Cabrin qu'on a essayé de mettre en œuvre ce type de contrôle, c'est-à-dire que toujours de façon facile et tout, il accède à cette plateforme. Chaque projet, il y a sa fiche. Du coup, le citoyen prend des photos et annonce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ils peuvent même noter les projets à la manière TripAdvisor, c'est-à-dire des étoiles et tout, sur la qualité, sur le respect des délais, le respect des coûts. Parfois, on trouve des projets qui commencent avec 1 million d'euros, ils finissent avec 3-4 millions d'euros. Et là, nous aussi, on essaie d'alerter, de mettre les pouvoirs publics au courant des choses qui ne marchent pas dans ces projets publics.
Le site cabrane.com affiche en page d'accueil une carte de la Tunisie sur laquelle sont disposés des dizaines de repères bleus. Chacun correspond à un projet d'infrastructure précis comme une autoroute ou une école. Lorsqu'on clique sur un repère, s'ouvre une petite fiche. Elle offre des informations sur l'avancée des travaux, sur le contractant, sur les délais et les coûts. Les chantiers sont classés dans 5 catégories selon qu'ils sont planifiés, reçus, terminés, annuler ou reporter. Deux onglets en haut à droite de la page permettent aux internautes d'ajouter directement des informations. Le fondateur de Cabrane, Sharfeddin Yacoubi, est au micro de Mélissa Barra.
Dans le dossier que vous avez soumis pour le prix numérique et transparence, j'ai relevé une citation que vous faites d'Oscar Wilde. Ce qui distingue les architectes des médecins, c'est qu'ils ne peuvent pas enterrer leurs erreurs. Ouais. Et justement, et justement en Tunisie, vous parliez justement de redevabilité. C'est quoi ces erreurs qui sont commises dans les travaux publics, dans le bâtiment, dans l'infrastructure?
Les études par rapport à l'exécution, il y a une grande différence. Il y a une université en Tunisie, l'extension de l'université. Après les études et tout, on a découvert que cette extension-là est basée sur un site archéologique. Alors après la budgétisation et tout, les préparations, les plans et tout, lorsqu'on a commencé à travailler sur le projet, on a trouvé un site archéologique à Carthage. Et là, ça démontre ce déphasage entre les études et l'exécution. La redevabilité, ça apparaît à travers la participation citoyenne, parce que ce sont eux les utilisateurs, par exemple un dispensaire dans une région intérieure à la Tunisie, ce sont les citoyens, les malades qui vont à ce dispensaire, qui constatent que ce dispensaire qui vient d'être inauguré après le départ du ministre, alors la pluie tombe et on trouve que ça ne marche pas. Alors ce sont les citoyens à travers Cabrane qui trouvent un moyen de faire passer leur voix. Cabrane, ce n'est pas un outil pour déterminer qui a corrompu qui, mais c'est plutôt un outil d'alerte sur la possibilité, il faut prouver ça après, mais c'est un outil qui permet de détecter des risques de corruption.
Faire un effet de loupe, quoi, travers les données.
Oui. Ça peut aider. Par exemple, Cabrane utilise des technologies qui permettent d'utiliser la data. Par exemple, si un promoteur, on peut voir tous ses projets d'un promoteur bien déterminé, on voit la qualité. Si ce promoteur-là, il y a toujours des problèmes avec la qualité concernant ce promoteur-là, ça pose des questions et ça peut alerter les pouvoirs publics que ce promoteur-là ne respecte pas les délais. Ou dans une région bien déterminée, les projets ne respectent pas la qualité, ne respectent pas les délais, ne respectent pas le coût. Alors ça peut donner des alertes sur des cas de corruption ou de mauvaise gestion. Pour moi, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance coûte plus que la corruption. Parfois, on n'a pas bien programmé, on n'a pas bien fait les études. Ce n'est pas de la corruption, c'est de la mauvaise gestion. Mais cela coûte des millions et des millions aux contribuables.
Et justement, ces données de gestion, en quoi elles consistent? Qu'est-ce que vous relevez exactement, précisément? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites de ces données?
Oui. Au départ, malheureusement, en Tunisie, les données qui existent qu'on a pu collecter sont seulement relatives au coût, durée, le promoteur. On n'a pas accès au contrat en eux-mêmes. C'est-à-dire, on n'a pas accès, par exemple, au cahier de charge. On ne sait pas quelles sont les composantes du projet, la qualité qui doit être respectée. On n'a pas accès à ces données-là. Et c'est une autre étape à travers laquelle on veut travailler, on veut intégrer la norme Open Contracting en Tunisie, c'est les contrats ouverts, c'est-à-dire que les contrats, on ne se limite pas à quelques données, 4-5 données superficielles, mais on veut voir les contrats, en eux-mêmes. Quelles sont les conditions, quels sont les modes de paiement, quand est-ce qu'on doit payer les contractants et tout. C'est plus poussé, ça aide à creuser encore sur ces contrats-là et de détecter plus de cas de corruption ou de mauvaise gestion. On vient de commencer, c'est Cabran a 6 mois, il est encore petit.
6 mois, mais vous avez déjà recensé combien de projets, ou de travaux d'infrastructure?
On a recensé aujourd'hui 241 projets. Leur coût, c'est à peu près 1 milliard de dinars, c'est à peu près 400-300 millions d'euros. Il y a 75 projets en retard. Déjà, Cabran donne cette alerte-là. Sur 241 projets, il y a 75 projets qui sont en retard. C'est énorme. C'est presque 30% des projets sont en retard en Tunisie. Ce sont des points, des indicateurs qui sont très importants.
Et ce genre d'indicateurs, à quoi vont-ils servir? Quel est l'objectif d'émettre ce genre de statistiques?
Ces statistiques-là, ce sont des moyens pour alerter les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics, lorsqu'ils sentent qu'il y a une pression de la part de la société civile, de la part des citoyens, ils vont agir. On alerte aussi les médias qui nous ont aidés beaucoup. Et les médias aussi utilisent Cabran. Par exemple, parfois, il y a des reportages qui ont été faits sur les projets publics. Il y a beaucoup de blocages sur les projets publics. Ils ont utilisé Cabran comme départ pour cibler quels sont les projets qui sont en retard, quels sont les projets qui ne marchent pas.
D'accord. Je vais juste revenir en arrière parce qu'on parle justement des autorités et des données que vous leur demandez. Est-ce que vous avez une confiance en ces chiffres, en ces données, en tout ce qui concerne, comme vous avez dit, les coûts, les dates, toute la temporalité? Est-ce parce que ça suppose qu'il y ait déjà un assainissement, on va dire, des autorités, que tout marche comme il faut? Est-ce que vous pouvez avoir confiance en ces chiffres?
Normalement, ce sont des chiffres officiels. Si on publie ces chiffres-là, on dit que ce sont des chiffres officiels. C'est la responsabilité du gouvernement qui a donné ces chiffres-là. Sinon, mais nous, pour être plus sûr, par exemple, le cas du site archéologique, on ne s'est pas limité aux données qui ont été fournies par les pouvoirs publics, mais on s'est déplacé sur lieu pour voir s'il y a vraiment, si le projet avance. Ils disent par exemple que le projet est à 90% terminé, mais si on se déplace sur lieu, on trouve que c'est pas ça. Et on alerte sur ce point-là. On essaie de faire un travail de terrain, hein. On ne se limite pas aux données, mais cela nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de déplacements dans les régions de la Tunisie, beaucoup de moyens pour se déplacer, pour prendre des photos, pour recruter quelqu'un qui peut travailler sur place sur ces projets-là. On ne se limite pas aux données par les pouvoirs publics, mais on essaie de faire un travail de terrain aussi.
L'Atelier des médias.
Cette semaine, l'Atelier des médias se penche sur 3 initiatives, 3 projets qui, à leur manière, œuvrent pour des démocraties plus ouvertes et tentent d'enrayer la corruption dans leur pays. 3 projets distingués par le prix numérique et transparence. Cabran est une plateforme de surveillance citoyenne des travaux d'infrastructure en Tunisie. Elle a été lancée en mai dernier par l'Association tunisienne des contrôleurs publics. Charfeddi Niacoubi est son fondateur.
La Tunisie est sortie il y a quelques années d'une ère pendant laquelle il y avait une corruption généralisée d'État, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se fier à des chiffres provenant des ministères. Vous, votre association, vous l'avez fondée en mai 2011, donc dans le sillage de cette révolution tunisienne. Comment a évolué la transparence et le rapport que peuvent avoir les citoyens avec ses gouvernants?
Sur cette thématique-là, la Tunisie est un grand chantier aujourd'hui. Il y a une société civile qui est très active, beaucoup d'associations qui travaillent sur la transparence, qui font beaucoup de pression, soit avec le Parlement, soit avec les ministères, soit au niveau local. Les associations, la société civile, elle est très active. Le degré de réponse des pouvoirs publics, ça dépend des ministres, ça dépend des situations Malheureusement, nous, en Tunisie, on passe par une crise économique. La Tunisie n'est pas aussi stable politiquement, les questions de sécurité. Mais cela dépend des personnes, cela dépend des personnes des ministres. Par exemple, sur beaucoup d'initiatives sur la transparence, on travaille avec un ministre et après 6 mois, il est limogé, ou il quitte son poste et on retravaille la même chose avec un nouveau ministre. Mais chaque ministre a son idée sur la transparence. Mais nous, on fait notre travail comme société civile, on continue à faire la pression et... C'est pas une question d'une année ou deux années, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et je crois qu'on est sur la bonne voie parce qu'on a une société civile qui est très impliquée sur les questions.
Et justement, comme votre association, il y a énormément d'instances qui sont nées, qui se sont développées pour exercer une sorte de droit de regard, de contrôle sur les actions d'ailleurs d'un gouvernement qui est toujours assez instable.
Les initiatives, surtout de la société civile, il y a des initiatives sur la transparence du Parlement. On contrôle, par exemple, l'absentéisme des parlementaires et tout. Il y a des initiatives sur le respect de l'environnement, des initiatives sur la corruption, des initiatives sur le contrôle du travail du gouvernement, des baromètres sur le respect des engagements des ministres, du Premier ministre, du Président de la République. Beaucoup d'autres initiatives, beaucoup d'autres plateformes qui existent en Tunisie, mais cela nécessite l'engagement des citoyens aussi est très important. C'est-à-dire, les outils existent, mais pour nous, par exemple, pour Cabran, malgré qu'on a essayé de communiquer beaucoup sur cette plateforme-là, mais on doit encore communiquer pour que les citoyens utilisent cette plateforme comme outil et trouver aussi les relais avec les ministères pour qu'ils répondent, pour qu'ils agissent en accordance avec les remarques des citoyens concernant les projets publics. Et c'est la même chose pour d'autres projets. On crée la plateforme, mais le degré d'implication des citoyens
reste encore limité. Vous pouvez aujourd'hui évaluer combien de Tunisiens interagissent avec votre plateforme?
Oui, on a des outils informatiques qui nous permettent de savoir combien de Tunisiens ont accédé au site, combien de Tunisiens ont donné des commentaires ou ont pris des photos. On a les chiffres exacts en instantané.
Et vous en avez combien pour le coup?
Ça dépend. Chaque jour, ça dépend entre 50 et 60 personnes qui accèdent au site. Mais c'est encore... nous sommes encore au démarrage et peut-être dans le futur, ça sera l'outil par excellence relatif au suivi des projets publics.
En tout cas, c'est le premier.
C'est le premier au niveau national, oui. On a fait la révolution... à travers, c'est pas seulement à travers les médias sociaux et tout, mais c'est la continuité. On veut continuer, on veut réussir la révolution parce que c'est un travail à long terme. Ça demande beaucoup de travail sur la transparence, la lutte contre la corruption, en utilisant des moyens numériques. Comment mettre la technologie à la disposition de la lutte contre la corruption? C'est ça la réponse que veut apporter Cabran.
Et maintenant, quelle est la suite pour Cabran?
Tout d'abord, c'est comment trouver de relais avec les pouvoirs publics, parce que Cabran, lorsqu'on détecte des anomalies, lorsqu'on suggère de nouveaux projets, comment trouver un relais avec les pouvoirs publics pour qu'ils prennent en charge ces nouveaux projets, pour qu'ils agissent sur les anomalies qui ont été détectées dans les projets? C'est notre première priorité. Et comment utiliser Cabran pour passer à une autre étape? Pas s'y limiter à des informations superficielles, disons, sur le coût, la durée du projet, mais passer à une autre étape relative à l'exécution du projet, la qualité du projet. Si on voit comment les choses se sont développées après 7 ans de la révolution, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées en Tunisie, même si parfois il y a des problèmes, mais on doit être optimiste.
Avant de marquer une pause, notons que Cabran était finaliste dans sa catégorie avec un autre site tunisien, Al-Bawsala, qui est donc arrivé deuxième. Nous vous l'avions présenté, Al-Bawsala, dans notre émission en février 2015. À suivre dans la seconde partie de l'atelier des médias, rencontre avec les deux autres lauréats du prix numérique et transparence. Atelier des médias, vous écoutez Radio France Internationale. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Cette semaine, nous parlons de projets numériques au service de la transparence et de la démocratie. Trois sites ont été récompensés le 8 décembre dernier à Paris dans le cadre du prix numérique et transparence décerné par le ministère français des Affaires étrangères, l'association Transparency International et CFI Média. Chacun de ces trois sites a reçu un prix dans une catégorie particulière. Mélissa Barra a rencontré celles et ceux qui pilotent ces plateformes.
Et dans la case outils de prévention et de lutte contre la corruption, le prix a été attribué à un projet malgache.
Bonjour, je m'appelle Andjan Razanakoutou, je suis de Madagascar et je représente le projet Tsukulkul.
Le site Tsukulkul est porté par une ONG qui s'appelle Tultsu. C'est en 2011 que l'idée de lancer une plateforme pour dénoncer la corruption a germé dans l'esprit de ses membres.
L'ONG Tultsu a fait un projet qui parlait de l'arrondissement de la capitale. Donc on voulait donner des copies d'état civil à des enfants privés de ce droit, aux marginalisés. Et pour faire le travail qui était prévu pour 2 ans, on a pris 4 ans. Donc entre-temps, il y avait des va-et-vient au niveau des administrations qui nous disaient payez ceci pour que votre dossier soit réglé et tout ça. Mais on n'avait pas de portefeuille pour la corruption au niveau du projet, non. Donc du coup, on s'est dit tiens, pourquoi pas travailler sur la lutte anticorruption. De là est née l'idée de travailler sur Tsukulkul.
Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait Tsukulkul?
En malgache, Tsukulkul c'est la corruption. Cool, vous connaissez, c'est un mot international, donc si, c'est pas, en tout ça fait pas cool la corruption.
Tsukulkul est un site en français et en malgache. L'idée c'est qu'on peut témoigner pour dénoncer des cas de corruption. Ces récits sont ensuite analysés et traités pour produire des statistiques sur l'ampleur du phénomène.
Mais de quoi s'agit-il quand on parle de corruption à Madagascar ?
Ce sont des pots de vin, des bakchiches donnés aux policiers de la rue, donnés aux administrations quand on demande un certificat de résidence, par exemple. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est quotidien. C'est comme un rhume.
C'est un virus.
C'est un virus, voilà.
Concrètement, comment fonctionne le site ? C'est surtout d'abord un appel à témoignage, c'est ça ?
Oui, au début, en 2014, quand on a commencé le site, c'était un appel à témoignage. Témoigner sur les cas de corruption que vous avez rencontrés, si vous avez été contrainte de payer un pot de vin, ou si vous avez refusé de donner quelques sous à un tel agent, ou si vous voulez féliciter un agent tout bêtement pour ses bonnes actions au niveau de son administration. Donc, vous cliquez sur « Témoigner ». Il y a des onglets que vous allez remplir, des choix que vous allez faire. Par exemple, vous allez témoigner sur le secteur de l'agriculture. Vous cliquez dessus, vous donnez votre témoignage et puis vous validez.
Quel type de témoignage vous recevez ? Est-ce que vous avez en tête un témoignage, par exemple ?
J'ai dû payer pour obtenir une fausse certification de positionnement au service militaire de l'état civil. C'était un mec qui nous a expliqué que comme un service militaire ne se faisait plus tous les ans, il était impossible de me donner. Alors, il m'a proposé un arrangement de 20 000 arias. C'est l'équivalent de, 8 euros, 7 euros pour renouveler l'année suivante. Donc c'était pour un passeport et la personne était contrainte de payer cette somme-là.
Donc en gros, on paye des pots de vin pour faciliter des démarches, pour avoir un concours, pour avoir un diplôme.
Oui, tout bêtement, c'est ça. Et ce sont les jeunes qui en paient le plus.
Pourquoi ?
Ben, par manque de connaissances et parce qu'ils sont les plus vulnérables. Oui.
Sur son site, Tsukulkul classe les cas de corruption par secteur. La police, l'état civil, l'administration, la gendarmerie, les transports, la justice, le secteur privé, l'éducation, les travaux publics. Ces deux secteurs sont d'ailleurs les plus touchés. L'éducation par le nombre de pots de vin demandés, environ 200 sur un total de 1200 cas répertoriés sur le site. Et le secteur des travaux publics, car c'est là où les pots de vin sont les plus importants en termes d'argent, avec en moyenne 1 500 000 ariars, soit 400 euros par commission.
Effectivement, à ce jour, ce sont les deux secteurs qui sont classés les premiers sur le site internet. Mais notons que ces données-là, ils vont changer peut-être tous les jours, hein. Ça dépendra parce que c'est un crowdsourcing sur le site.
Et avec ces données-là, avec ces témoignages, comment vous les analysez? Qu'est-ce que vous en faites?
Ben, après les analyses, on les transfère au Bianco.
Qui est le bureau anticorruption malgache.
Bureau indépendant anticorruption, oui. Et on les transfère auprès du Bianco. S'il y a des cas qui sont investigables, s'ils veulent investiguer sur des cas, et auprès des médias, c'est pour donner des statistiques, des chiffres clés pour témoigner qu'un tel secteur ou un tel secteur est le plus miné par la corruption.
Donc cette plateforme, qui est surtout une plateforme d'information, de statistiques, elle a été lancée en novembre 2014, donc là ça a fait trois ans. Et trois ans durant lesquels vous avez recensé presque 800 cas de pots de vin versés, presque 400 refus de paiement. Donc ça fait déjà bien 1200 cas au moins de demandes de pots de vin. Et aussi, vous avez marqué une quarantaine d'autres formes de corruption. C'est quoi ces formes de corruption?
Ben, ce sont les corruptions qui ne demandent pas de l'argent, mais qui sont classées dans sa définition comme étant des cas de corruption. Comme par exemple, vous êtes étudiante et on vous contraint de coucher avec un professeur pour avoir votre diplôme. Il y en a.
D'un point de vue monétaire, financier, vous avez relevé que cette corruption, elle représente, en tout cas depuis trois ans, 1,5 milliard d'ariary, donc ça fait à peu près 400 000 euros. Justement, quel est l'objectif, en fait, de publier ces résultats, ces données, ces témoignages?
L'objectif principal, c'est d'en parler. En fait, la corruption, c'est un sujet tabou n'importe où. Je suppose que ce n'est pas seulement à Madagascar, mais les gens, les jeunes, ils ont tendance à dire ça dans l'informel. Donc, je ne dis pas que sur le site internet, c'est d'une manière formelle, mais au moins, quand on travaille ensemble sur le sujet, quand on se renforce mutuellement, ça peut tirer plus de sonnettes d'alarme au niveau du gouvernement et des preneurs de décision.
Et est-ce que ça en a tiré quelques-unes de sonnettes d'alarme?
Oui, je dirais, parce que là, maintenant, sur une extension du site internet, vous pouvez voir au niveau de s'informer une évaluation de trois ministères sur la lutte contre la corruption, comme quoi les représentants des ministères, en 2015, ils ont signé un engagement à mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Comme on n'a évalué que trois ministères sur les 25 qui ont signé, donc on peut voir que certains ministères sont plus à cheval sur le sujet et certains ministères, non.
Lesquels, par exemple, sont à cheval sur le sujet?
Le ministère de l'Éducation, ils ont fait quelque chose.
Donc, notamment. Il est le secteur le plus touché, justement.
Oui, oui. Un des secteurs les plus touchés. Ils ont instauré des cellules anticorruption au niveau des DREN, circonscription de l'éducation nationale. Ils ont commencé, quoi.
D'accord. Et ce sont donc des témoignages, il faut le rappeler, anonymes. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait une sorte de mécanisme de prévention de la diffamation, par exemple. C'est-à-dire que si on va accuser un ministre d'avoir demandé un pot de vin, il faut quand même qu'il y ait un travail de vérification derrière.
Oui. Et il y a des cas où des personnes disent que leur cas, leur récit mérite d'aller plus loin. Donc on leur dit, vous savez, nous sommes la société civile, notre terme de référence s'arrête au niveau de la dénonciation. Nous vous incitons à aller plus loin, donc donnez vos informations auprès du Bianco et on accompagne ces personnes-là.
Ça veut dire qu'ensuite, si l'on suit le cheminement, on va dire, judiciaire, le Bianco, qui est donc ce fameux bureau indépendant de lutte contre la corruption, va mener son enquête, va transmettre ses informations à la justice, et c'est ensuite la chaîne pénale, c'est-à-dire le système judiciaire malgache, qui doit prendre la relève, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe souvent à ce niveau-là?
Jusqu'ici, ça s'arrête là. Il y a plusieurs cas de corruption qui sont traduits en justice, mais qui sortent niettes. Il faut faire quelque chose, il faut activer les choses, parce qu'on n'aboutira jamais à rien si les gens qui font du mal au pays, ils s'en sortent indemnes.
dénoncer la corruption comme vous le faites à travers une plateforme numérique, à travers des statistiques, des témoignages, est-ce que ça peut vous exposer à des formes de représailles, par exemple ?
Ça pourrait.
C'est déjà arrivé ?
Jusque-là, non, mais ça pourrait. Donc, il faut faire très attention.
Le prix Transparence et Numérique a également retenu dans la même catégorie que Tskoulkoul le portail africain de surveillance pour la lutte contre la corruption, une plateforme sénégalaise qui fournit des statistiques sur plusieurs pays d'Afrique. Elle occupe la seconde place.
Une cinquantaine de projets ont été soumis au jury du prix Numérique et Transparence. Lors du dépôt de dossier, les candidats devaient se placer dans une des trois catégories du concours. Le premier prix dans la rubrique Contrôle citoyen pour la bonne gouvernance a été attribué à un site burkinabé baptisé le Présimètre. Il est représenté par Luther Yameogo de l'ONG Diakonia qui est à l'origine de cette plateforme.
Le Présimètre permet aujourd'hui d'assurer un contrôle citoyen des politiques publiques, permet de faire et d'effectuer en temps réel un monitoring des engagements et des promesses du président de la République, parce que figurez-vous que pendant sa campagne électorale, il a eu à faire plus de 200 promesses pour le bien-être et pour l'essor des citoyens du Burkina Faso. Alors le Présimètre, en tant que plateforme de veille, s'est engagé à faire donc le monitoring et le suivi évaluation de 85 de ses promesses relativement à 5 domaines bien précis: l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la sécurité des personnes et des biens et la sécurité alimentaire.
Le Présimètre recense ces chiffres et les mesures prises pour chacun de ces 85 engagements du président Roch Marc-Christian Kaboré. Engagements qui sont donc classés dans 5 domaines.
Le programme est appuyé par une plateforme numérique, www.presimètre.bf. Sur cette plateforme, nous avons retranscrit les 85 engagements prioritaires et pour chaque engagement, le citoyen, pour peu qu'il ait une connexion Internet, a la possibilité d'apprécier l'engagement qui est fait, de noter son niveau de satisfaction et, a fortiori, les experts du Présimètre, donc les organisations de la société civile qui remontent les informations, permettent à un diagramme qui est affiché, qui est mobile et qui est automatisé d'indiquer de la date de l'élection du président jusqu'aux prochaines élections en 2020, le niveau d'implémentation de cet engagement ou de cette promesse. C'est donc une plateforme dynamique qui permet de faire ce monitoring, mais surtout le plaidoyer pour corriger ce qui peut encore l'être.
Sur le site du Présimètre, on est accueilli par un baromètre dessiné à côté duquel trône une photo officielle en costume du président. En haut à droite de la page, une jauge compte les jours écoulés et restants de son mandat. Aujourd'hui, samedi 16 décembre, nous sommes à 718 jours de sa prise de pouvoir. Il en reste 1111. Plus bas, il y a un diagramme aux couleurs du Burkina Faso. Il mesure le niveau de réalisation des engagements du dirigeant. À ce jour, parmi les promesses de Kaboré, selon le baromètre, 11,8% ont été réalisées, 83% des promesses sont en cours de réalisation et 5% n'ont pas été entamées. Pour chaque engagement, il suffit de cliquer sur « En savoir plus » pour avoir des détails concernant son avancée et son classement.
Alors, un engagement en cours peut être relatif, pour prendre par exemple le milieu de l'éducation, à l'élimination de ce qu'on appelle au Burkina Faso des écoles sous paillotte. Il y a encore des élèves, il y a encore des enfants au Burkina Faso qui n'ont pas accès à 4 murs pour avoir les cours et qui sont obligés de s'asseoir sous des paillotes, bon an, mal an, quelles que soient les intempéries, soleil, pluie ou vent, pour suivre des cours alors que tout le monde se met d'accord pour dire que l'éducation est le pilier du développement, parce que si on est dans l'ignorance, on ne va jamais avoir des outils pour se développer. Aujourd'hui, le président du Burkina Faso a pris des engagements forts en la matière en décidant d'éradiquer, d'éliminer totalement ces écoles sous paillotes. Nous nous estimons que le nombre d'écoles sous paillotes reste très élevé, bien qu'il y ait des écoles en construction. Pour le moment, on dit qu'il y a des poses de première pierre, il y a des marchés publics qui ont été passés, il y a des appels pour des marchés publics qui ont été adjugés. Maintenant, il faut réaliser ces travaux et il faut qu'à la rentrée, par exemple, d'octobre 2018, on puisse dire qu'il y a tel nombre d'élèves qui ne sont plus assis sous des paillotes parce qu'il y a tel nombre de classes qui peuvent les accueillir. Alors, cet engagement reste en cours parce que les écoles ne sont pas terminées et les élèves, pour le moment, restent sous des paillotes. Il y a sur la plateforme une proportion
proportion de plus de 40% d'engagements qui sont en cours, comme on aime à le dire.
De 80% d'engagements qui sont en cours.
Voilà, qui sont en cours, s'il vous plaît, qui sont en cours, exactement. Alors, cela signifie tout simplement qu'après 2 ans, les actes forts ne sont pas encore sur agenda. Ça signifie également que la vocation du changement qui était estimée et espérée à travers la mise en place du Présimètre risque de ne pas être atteinte, parce que le Présimètre avait également pour vocation de faire de sorte que pour les prochaines élections de 2020, le premier déterminant pour le vote soit le bilan et les performances du régime en place, et non plus, comme nos enquêtes et sondages l'ont montré, et non plus donc l'argent qui est distribué en amont des élections, l'ethnie, la région, qui étaient les 3 déterminants majeurs des systèmes électoraux au Burkina Faso.
Le présimètre, c'est, pour le dire de manière plus sommaire, c'est divisé en 2 parties, on va dire. Un côté participatif, qui sont les sondages, l'opinion publique burkinabé, et l'autre côté qui est l'étude de la bonne gouvernance, tout simplement, du mandat de Kaboré. Qui effectue ces études? Qui constate que tel engagement a été mené? Qu'il est en place? Comment on observe ce genre de choses?
Alors, de manière concrète, le présimètre est d'abord un programme qui met en branle une 15aine d'organisations de la société civile. Chaque organisation partenaire donc du Présimètre mène ses activités au quotidien. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples travaille à la promotion, à la défense et à la protection des droits humains. L'association d'éveil pour Sada travaille à l'essor des droits de la femme. Le réseau national de lutte anticorruption travaille à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la corruption. Tout cela dans le cadre du Présimètre, pour ne citer que ces exemples. De manière concrète, ces acteurs de la société civile partagent les bonnes pratiques et les résultats de leurs actions sur une plateforme numérique qui s'appelle donc également Présimètre. Donc le Présimètre tient lieu de nom du programme et de la plateforme numérique. Sur la plateforme numérique maintenant, le Présimètre permet l'organisation de sondages en ligne où les citoyens peuvent s'exprimer directement, mais le Présimètre agrège également des sondages qui sont faits par 3 organisations également membres du dispositif. Le Centre pour la gouvernance démocratique fait des sondages, des enquêtes par sondage, pour que les populations s'expriment non seulement sur les perceptions, sur leur niveau de satisfaction, mais aussi sur le taux d'exécution des différents engagements dans leur domaine et dans leur localité.
Juste pour précision, le Centre pour la gouvernance démocratique, c'est l'organe au Burkina qui est indépendant et qui contrôle la bonne gouvernance et les institutions démocratiques, on va dire.
Alors, le Centre pour la gouvernance démocratique est donc une institution impartiale au service du dialogue démocratique qui a acquis ce leadership par un travail reconnu et apprécié et qui a fait que le CGD, Centre pour la gouvernance démocratique, est aujourd'hui membre du réseau international Afrobaromètre, avec des enquêtes qui sont légitimées et corroborées par des dispositifs internationaux. Le CGD apporte donc son expertise à la plateforme. Nous avons déjà organisé pour les 100 premiers jours du président un premier sondage qui a permis de montrer qu'après l'euphorie des élections, qu'après la fougue qui a été démontrée, après l'intensité démocratique, après l'intensité citoyenne de l'insurrection populaire au Burkina Faso, il y a eu comme un désenchantement. Il y a une quasi-perte de confiance dans le leadership des gouvernants, et les 100 premiers jours ont clairement montré que la trajectoire était floue.
Ah oui, justement, parce que si l'on regarde justement la catégorie sondage sur votre site Présimètre, on voit qu'en fait, il y a une majorité de sondés qui ont répondu qu'ils n'avaient pas confiance de manière majoritaire envers ces gouvernants.
Tout à fait. La plateforme Présimètre permet de montrer aujourd'hui que le défi cardinal pour les autorités politiques au Burkina Faso, c'est d'arriver à indiquer une trajectoire cohérente pour que le Burkina Faso s'éloigne du précipice. Le Burkina Faso est sorti de 30 années dans lesquelles le système était verrouillé, dans lesquelles les droits humains n'étaient pas la panacée, dans lesquelles la corruption et la patrimonialisation étaient devenues des pratiques routinisées, et aujourd'hui le citoyen s'attendait à voir un changement radical. Les citoyens ont donc souhaité un changement de mécanismes de gouvernance.
Et concrètement, le départ de Blaise Compaoré, en fait.
Les citoyens ont souhaité le départ de Blaise Compaoré et de son système, surtout. Et la transition a permis d'organiser les élections, mais n'a pas permis d'asseoir cette pédagogie de la gouvernance. Les citoyens avaient donc espéré que dès que le nouveau régime s'installerait, on verrait une gouvernance vertueuse, on verrait une gouvernance qui permet à chaque citoyen d'aspirer à un bien-être et à postuler à ce à quoi il a droit. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous restons encore dans les starting blocks. Après 2 années, le décollage ne s'est pas encore opéré, la rupture ne s'est pas encore opérée, la déconstruction reste à être opérationnalisée. Aujourd'hui, au niveau des indicateurs socio-économiques, les citoyens attendent la traduction chiffrée de ces promesses. Par exemple, dans l'assiette de la ménagère, si chez nous, pour aller au marché, l'homme donnait 2000 francs à sa femme, ce qu'on appelle le nasongo, est-il capable de lui donner aujourd'hui 2500 ou 3000 pour qu'elle aille faire le marché? Cela n'est pas traductible dans les faits. On estime donc qu'il y a une régression des conditions de vie, il y a un désenchantement par rapport même à la capacité et par rapport à la gouvernance pédagogique et vertueuse qui était annoncée. Et il y a donc, après l'évaluation des 100 jours, l'évaluation de l'an 1, a également montré un désenchantement. Une citoyenne s'est même exprimée tout récemment en disant que la confiance qui est accordée aux responsables politiques est comme un timbre qu'on colle sur une enveloppe. Et malheureusement, cette confiance est offerte une seule fois parce que le timbre ne colle pas 2 fois sur l'enveloppe.
Et justement, ce genre de sondage, quel impact ils peuvent avoir sur ce que vont faire les gouvernants, ce que va faire le gouvernement? Quel impact, quelles conséquences vous pensez que ça peut avoir sur ça?
C'est ici qu'intervient toute la visée utilitaire, propédeutique et programmatique du Présimètre, parce que les résultats des sondages sont présentés dans des forats qui sont appelés des dialogues démocratiques. Nous avons déjà eu 4 dialogues démocratiques qui ont permis d'avoir dans des plateformes de dialogue ensemble des représentants du gouvernement, des représentants de la société civile, des observateurs de la presse et des médias et du secteur privé pour analyser ce que nous appelons les tendances lourdes des évaluations. Eh bien, quand les tendances négatives se dégagent, le gouvernement apporte une réponse, ce qui est déjà à saluer, puisque nous avons aujourd'hui, après 30 ans de système verrouillé, un système politique déverrouillé, où à nouveau les citoyens ont voix au chapitre et où le gouvernement est à l'écoute des citoyens, bien que les citoyens estiment que la trajectoire soit floue. Le gouvernement a donc chaque fois apporté une disponibilité parfaite pour répondre en termes de redevabilité. Malheureusement, les citoyens estiment que malgré ces réponses communicationnelles, le plus dur reste à traduire encore une fois dans les faits cet engagement. Il y a un deuxième niveau de réponse qui est apporté par le gouvernement à travers des émissions que nous organisons en direct sur la première chaîne de télévision burkinabé. Ces émissions s'appellent Dialogue citoyen. Le chef de l'État a été lui-même le premier invité à ces émissions Dialogue citoyen qui permettent aux citoyens de l'interroger en direct depuis la plateforme Présimètre avec sur le plateau des journalistes. Et il faut dire que ces émissions sont retranscrites et retraduites dans 4 langues locales et par 60 radios communautaires qui permettent donc à tous les Burkinabés d'entendre et de participer à la vie citoyenne.
Oui, parce qu'une des plus grandes, j'imagine, difficultés de Présimètre, c'est tout simplement le taux d'internautes. Donc il faut aller chercher, aller trouver de nouveaux moyens de diffuser effectivement ce qui est publié, ce qui est diffusé sur présimètre.bf pour pouvoir atteindre des gens qui ne sont pas internautes tout simplement.
Tout à fait. Le Présimètre a judicieusement pris en compte cette dimension parce que le taux de pénétration à Internet au Burkina Faso est de moins de 5%. Plus de 70% de la population est également analphabète. Il va sans dire qu'un mécanisme qui est mis en place qui est uniquement en français ou qui est uniquement numérique n'atteindra pas la majorité des populations. Nous avons aussi constaté après les élections que le taux de participation chez les jeunes était très faible. C'est pourquoi le Présimètre a induit et introduit dans le mécanisme 3 innovations majeures qui sont déjà opérationnelles. Dans un premier temps, la plateforme permet aux différentes radios communautaires à travers le réseau et l'Union des radios libres d'Afrique basée au Burkina Faso, de retravailler le travail qui est fait sur la plateforme, le traduire dans les langues locales et le partager. Ce qui permet à tous les Burkinabés de pouvoir utiliser leur propre langue pour s'exprimer puisque ce sont des émissions interactives. Deuxièmement, le Présimètre est parti également du principe que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne se réduisent pas à Internet. C'est pour cela que le Présimètre utilise également la radio, qui reste le médium le plus utilisé au Burkina Faso. Le Présimètre utilise la télévision, qui est entre 18h et 21h l'outil communicationnel le plus utilisé au Burkina Faso, selon les statistiques que nous avons. Et le Présimètre utilise également le dialogue direct entre les populations et les gouvernants que j'ai appelés espaces de dialogue, d'interpellation communautaire, ainsi que les émissions Dialogue citoyen, où En plus de poser des questions sur la plateforme, le citoyen peut utiliser son téléphone pour un appel ou pour envoyer un texto ou un SMS. Il y a un certain nombre de chantiers sur lesquels nous travaillons pour publiciser davantage, pour vulgariser davantage l'utilisation et l'appropriation de la plateforme. Nous aurons deux innovations majeures qui s'annoncent pour le début de l'année 2018. Désormais, au lieu de se connecter à partir de l'application mobile qui sera bientôt installée sur les téléphones portables, le citoyen pourra juste utiliser son téléphone mobile et passer un message qui sera immédiatement retranscrit sur la plateforme. Le deuxième élément d'innovation reste donc l'application mobile qui sera opérationnalisée à partir de janvier.
Merci beaucoup, Luther Yameogo. Donc, je rappelle que le site, c'est www.prezimetre.bf. Merci.
Merci à vous.
Dans la catégorie du Prezimetre concourait aussi le site Africa Check, qui a reçu le second prix. Cette plateforme panafricaine de vérification des faits avait par ailleurs été récompensée en avril 2017 par le prix francophone de l'innovation organisé par l'OIF, RFI et Reporters sans frontières.
Une plateforme qui est d'ailleurs bilingue puisqu'elle existe également en anglais. Vous pouvez retrouver les entretiens avec les lauréats du prix numérique et transparence ainsi que des liens vers leur plateforme sur notre site à nous, atelier.rfi.fr, dans un billet signé comme cette émission, Mélissa Barra.
N'hésitez pas à partager dans les commentaires d'autres initiatives qui, comme elle, œuvrent dans le sens de la transparence dans leur pays.
Atelier des médias, l'atelier des médias, c'est une émission signée Simon Decreuse, Mélissa Barra, Mathilde Saliou, Camille Deloche, Léo Caravagna et Ziad Malouf. Merci à toute l'équipe du prix Transparence et Numérique pour son initiative et son accueil. Salut à toutes et à tous.